Chapitre 5e. Comment la belle Corisande s'endormit à l'ombre d'un chêne, ce qui fit rêver le comte d'Angers, quoiqu'il n'eût pas sommeil. « Et vous allez à la cour de Charlemagne ?» demanda Roland. « Non, seigneur, répondit-elle, si vous daignez m'accorder votre protection. Sous votre garde, je traverserai sans pâlir toute l'armée de Ferragus. » Roland se précipita à genoux, et saisissant la main de Corisande, qui pendait hors du lit, blanche, délicate et rosée, il la porta à ses lèvres avec un mouvement passionné. « Que faites-vous, seigneur ? » dit la princesse en rougissant et voulant relever le chevalier. « Mon devoir, » répondit-il simplement. « Aussi vrai que je m'appelle Roland, fils du comte Milon et neveu de Charlemagne, je jure de dévouer ma vie à votre service et de vous rapporter la tête de Ferragus et celle de Gaiferos. » Ah ! » s'écria Corisande. « On ne m'avait pas trompé en vantant la générosité des chevaliers de votre race et de votre lignage. La terre de France est la terre des héros. » C'est en de tels entretiens que la princesse et le chevalier passèrent la plus grande partie de la nuit. Heureux temps où l'on ne rencontrait sur les grands chemins que des princesses plus belles que le jour et des chevaliers dont le moindre eût tenu tête aux Grecs et aux Troyens réunis. Enfin, Roland sentit qu'il était temps de se retirer. Il sortit de la tente et s'assit à l'écart, l'épée nue, prêt à voler au secours de sa princesse. Il l'aimait déjà plus que lui-même. Qui ne l'aurait aimée ? Elle était si jeune, si belle et si malheureuse que sa vue seule aurait attendri les tigres d'Hyrcanie. Le bon chevalier oublia tout de suite sa disgrâce, la cour de Charlemagne et ses 12 pères et ses projets d'ambition. À quoi bon chercher des couronnes, si ce n'est pour les mettre sur la tête de Corisande ? J'aurais peine à dépeindre la fureur qui le saisit au souvenir des infâmes attentats du prince de Grenade et de la perfidie de Ferragus. En vérité, oui, en vérité, le cruel Gaiferos, s'il avait vu les yeux étincelants et les dents serrées du comte d'Angers, aurait de bon cœur couru jusqu'à Babylone pour éviter le châtiment de ses crimes. Mais au milieu de ses souvenirs, le visage charmant et doux de la belle Corisande apparaissait aux yeux de Roland et réjouissait son âme comme le soleil qui dissipe les nuages. Quelles étaient, dans le même temps, les réflexions de la princesse de Grenade ? Il est malaisé de le savoir, les femmes sont si dissimulées. Je suppose qu'elle dut penser avec reconnaissance à son libérateur, et que cette reconnaissance pouvait aisément se changer en un sentiment plus tendre, mais je ne l'ai jamais su, et j'imiterai sur ce point la discrétion des chroniqueurs de qui je tiens cette véridique histoire. Enfin, le soleil parut, et ses premiers rayons éclairèrent la cime des montagnes de l'Aragon. C'est là que Roland avait eu le bonheur de rencontrer la princesse. D'épaisses forêts de chênes couvraient le penchant de ces belles montagnes et descendaient jusque dans la vallée. Au fond, entre deux forêts, de vastes prairies s'étendaient sur les bords d'une petite rivière aux flots limpides, et quelques chevreuils s'enfuyaient à travers les arbres, effrayés par la vue des hommes. On voyait à quelque distance un petit moulin grisâtre, devant la porte duquel les poules, les oies, les canards, les petits enfants tout nus se jouaient pêle-mêle, sans souci des princesses et des chevaliers, de Charlemagne ou du roi Marsile. Roland, assis, contemplait ce spectacle en silence, lorsque la belle Corisande sortit de sa tente, souriante et parée, comme si elle eût oublié ou ignoré les événements de la nuit. Elle s'avança doucement vers le bon chevalier, et mit la main sur son épaule. Il se retourna, surpris et charmé. « À quoi pensez-vous » dit-elle. « Je pensais, » dit Roland, tout étonné de sa propre hardiesse, « que si vous vouliez rester dans cette vallée et y planter votre tente, je ne reviendrai plus jamais à la cour de Charlemagne, et je ne changerai pas ce moulin pour le palais des empereurs du Catay, dont les colonnes sont d'or et de jaspe. » Corisande baissa les yeux sans répondre, et Roland, qui craignit d'avoir déplu, s'en alla surveiller les préparatifs du départ. « Hélas, » pensait-il, « ma mère m'a donné des bras vigoureux et un cœur exempt de crainte, mais je ne serai jamais qu'un mangeur de sarrasin. » Il se trompait. La belle Corisande n'était pas tout à fait insensible à l'amour. Mais s'y est-il bien à une grande princesse de déclarer si promptement sa flamme, et n'avait-elle pas raison de dissimuler un peu? La meilleure partie de l'amour, n'est-ce pas la préface ? Un instant après, Roland revint, tout armé, amenant par la bride le palefroid de la princesse et s'offrant à tenir l'étrier. Corisande appuya le pied gauche sur le poing recouvert du gantelet que lui tendait le chevalier et sauta légèrement en selle. D'un sourire, elle remercia Roland et lui fit signe de donner l'ordre du départ. « Où allons-nous » demanda-t-il. « À Grenade, » dit-elle. « Eh bien, à Grenade, » répéta Roland. « Et que Fergus prenne garde à lui. » Aussitôt, la troupe se mit en marche. La journée fut belle, et le paladin, heureux de voyager à côté de sa princesse, bénissait l'heureuse disgrâce qu'il avait obligé de quitter Charlemagne. Vers le milieu du jour, ils s'arrêtèrent pour dîner à l'ombre de quelques grands chênes, et Corisande voulut elle-même servir le chevalier, qui ne savait comment se défendre d'un tel honneur. Après dîner, la chaleur était si forte que tout le monde s'endormit, et la belle Corisande elle-même se coucha sur l'herbe, ne pouvant résister au sommeil. Roland seul veillait. Malheur à qui peut dormir près de sa bien-aimée. Le brave chevalier ne pouvait se résoudre à regarder autre chose que sa belle princesse. Forêts, ruisseaux, prairies, terre et ciel, tout avait disparu. Corisande seule survivait à toute la nature. Les yeux de Roland ne pouvaient se lasser de suivre les contours de ce corps adorable qu'animait une âme toute divine. Un souffle léger se jouait dans ses beaux cheveux. Un demi-sourire errait sur ses lèvres roses. Toutes les grâces de la jeunesse ornaient son front. Le cœur de Roland battait à tout rompre dans sa poitrine. Ce guerrier invincible, à qui les morts et les sarrasins réunis n'auraient pu causer la moindre émotion, tremblait d'amour, de respect et de crainte à la vue de cette jeune fille couchée sur le gazon. Qu'elle était belle ainsi. Le bon chevalier soupira en la regardant. Au bout d'un instant, il vit que toute sa suite dormait et s'approcha pour la voir de plus près. Un bruit léger le fit tressaillir. Il se coucha la tête dans ses mains et feignit de céder au sommeil. C'était la chute d'une feuille. Tout tremblant encore du danger qu'il avait couru d'être découvert, il se pencha sur la belle princesse. La belle Corisande dormait d'un profond sommeil. Son bras blanc, sculpté par les grâces, sortait à demi d'un flot de velours et de dentelle. Ses cheveux soyeux et bouclés couvraient à demi le plus beau visage que la nature ait jamais formé. Roland ne put résister à son désir. Il posa ses lèvres sur ce bras charmant et se rejeta tout tremblant sur le gazon en feignant de dormir. Corisande, éveillée par ce baiser inattendu, se leva et regarda autour d'elle. La rougeur du coupable le découvrait assez, mais la maligne jeune fille se plut à prolonger son supplice. Elle appela sa nourrice. Celle-ci arriva, tout endormie, bâillant et tendant les bras. « Eh bien, tu dors, nourrice, et tu ne vois pas que le soleil a tourné sur l'horizon et qu'il est temps de partir. Pour moi, je me suis senti piqué au bras tout à l'heure et je me suis réveillé. Allons, seigneur chevalier, debout et partons. » Roland se leva à grand bruit et se mit à sceller Bride d'or. Bientôt, tout le reste de la caravane l'imita et fut prêt à le suivre. « Hélas, pensa le pauvre chevalier, je l'aime follement, mais elle ne m'aimera jamais. » Dans le même temps, Corisande, qui avait vu tout le manège du chevalier, se disait toute ravie, « Il m'aime, et c'est Roland. » Mais le destin jaloux se plaît à séparer les amants.